Philosophie première, par le père Philippe à Saint-Jodard, le 16 janvier 90.
Il y a une question posée. Vous avez dit que le dianima montre l'âme par rapport au corps. Donc montre comment l'âme est unie substantiellement au corps. C'est tout l'aspect de l'âme substance. Mais que seul l'acte, l'être en acte, montre que le nous s'enracine dans la substance de l'âme. Oui, dans le dianima, on pose les opérations vitales d'intelligence et d'amour et on ne conclut pas. D'Aristote. On ne conclut pas si ces opérations qui impliquent d'être séparés de la matière impliquent donc une substance immatérielle séparée de la matière. On ne conclut pas. Alors, je vous disais que c'est la métaphysique qui va nous permettre de préciser cela. Je crois qu'en effet, le dianima appelle la métaphysique. Qu'est-ce que c'est que le nous? Vous voyez, le nous dans le dianima est vu avant tout comme le point de vue vie, opération vitale. Mais cependant, dans ces opérations vitales, on voit qu'il y a le jugement d'existence. On atteint le to einein, l'être. On peut le constater. Par le fait même, le nous pose le problème métaphysique. Qu'est-ce que c'est que l'être? Quel est le lien qui existe entre le nous et l'être? C'est une manière d'aborder la métaphysique. Je ne le fais pas souvent, mais puisqu'on me pose la question ici, je peux le dire d'une manière. Et je sais que certains interprétant Aristote, on insiste beaucoup là-dessus. Il y a quelque chose de juste. Puisqu'Aristote dit que la philosophie première, c'est pour connaître le nous et Dieu. Et donc, je comprends très bien que regarder le nous uniquement au niveau des opérations vitales, c'est ce que fera Hegel. Il regarde le nous du côté vie. Alors que Aristote va regarder le nous du côté être. Et c'est intéressant puisque l'âme regarde la vie, l'âme regarde l'être. Le fait de vivre, le fait d'exister. Pour le vivant, le fait de vivre, c'est d'exister. Donc c'est toujours ce rapport qu'on prend sous des aspects différents entre vie et être. Alors, je comprends qu'à partir de là, on va regarder le nous et le to einein, l'être. Et nous entrons en philosophie première, c'est-à-dire ici, philosophie du vivant. On peut regarder la même réalité, le nous, qu'on découvre en philosophie du vivant. On peut la regarder du point de vue de l'être. Que représente l'intelligence, le nous, du côté de l'être? Que représente la volonté du côté de l'être? Alors, je continue de lire la question. Montrer que le nous s'enracine dans la substance de l'âme, bon, et que seul l'acte, l'être en acte, montre que le nous s'enracine dans la substance de l'âme. Oui, je maintiens ça. Mais il faut peut-être préciser à quel moment pouvons-nous affirmer ça? Et je crois que la question est là. Si le nous est acte, il est âme substantielle, puisque l'être en acte assume la substance. On ne peut pas être un acte, être un être en acte, sans être relié à l'aspect substantiel. Et vous comprenez pourquoi? Puisque l'être en acte est l'être premier, puisque l'être en puissance est l'être second, et que la substance est l'être premier, il faut nécessairement que l'être en acte soit substantiel. Petit raisonnement très simple. J'espère que vous comprenez. Je prends l'être en acte, energeia, pas entelegeia. Parce que entelegeia, ça retomberait sur le point de vue de la vie. Si le nous est acte, il est âme substantielle. La philosophie première suffit-elle, liée à la philosophie du vivant, pour montrer cela? Je crois, au sens tout à fait précis, que la philosophie première, montrant que l'être en acte est donc premier, comme l'être en substance, comme la substance, l'être est premier selon la fin, l'être est premier selon la forme. Or, la fin présuppose la forme, donc si on est être en acte selon la fin, cela implique de l'être selon la forme, et donc d'être substantiel. Mais ce n'est pas explicité pleinement. Et ça pose le problème. Le nous ordonné à l'être, en premier lieu, le nous découvrant l'être en acte, comme il découvre la substance. Il y a une parenté radicale entre le nous, la substance, et l'être en acte. Puisque le nous est capable de découvrir la substance, il y a donc un lien entre le nous et la substance. Puisque le nous est actué par la substance, dans un jugement d'existence, en découvrant la substance comme principe. Le nous est donc les mêmes principes. Alors, voilà l'objection. L'opération du nous n'est-elle pas toujours intentionnelle? Oui, au niveau appréhension. Non, au niveau jugement. Alors, c'est des questions, posez-les. Je ne veux pas aller trop loin. Mais c'est ça qu'il faut comprendre. Je saisis la substance dans un jugement. Je saisis l'être en acte dans un jugement. Et donc, je ne le saisis pas seulement intentionnellement. Je le saisis réellement. Il y a donc quelque chose de substantiel dans le nous. Alors, je ne pourrais l'expliciter parfaitement que dans un jugement de sagesse. Oui. Oui, c'est pareil. Mais Aristote s'est posé au point de départ du dianima la question de savoir si le nous était substance. Ce n'est le début du dianima. Or, il ne conclut pas. Donc, l'aporie du dianima n'est pas précisée d'une manière absolue.
Au début du niveau 2, il ne conclut pas.
Quoi?
Au début du niveau 2, quand il parle
l'acte comme en physique, pas d'une façon métaphysique. Vous voyez ? Le De Anima reste la philosophie du vivant, c'est pas la philosophie. Donc quand il dit que l'âme est acte, il ne prend pas l'être en acte. Oui, comme en physique, quand il dit que le mouvement est entelekeia, on reste dans un ordre qui n'est pas celui métaphysique. Oui, autrement, vous devriez dire que la philosophie de la nature et la philosophie du vivant n'ont pas de structure sans la métaphysique. Donc il n'y aurait qu'une seule philosophie, la métaphysique. Ça a été la tentation de la scolastique. Et au fond, la philosophie, c'est la métaphysique. Non. Il y a des parties de la philosophie qui sont organiques. Et le sommet, c'est la métaphysique. Bon, je ne dis pas plus. Vous y réfléchirez et on verra ça. Alors, je continue un peu cette topic. Je sais très bien, parce que je tâte le pouls de l'auditoire, que c'est fatigant une topique. Quand on ne connaît pas la map monde philosophique, c'est toujours fatigant les voyages. Quand on est jeune, ça forme. Rien qui forme plus que les voyages. Les voyages intellectuels, c'est très fatigant quand on ne connaît pas entièrement tout. Mais je vous ai déjà dit qu'il faut avoir une connaissance assez précise de la philosophie grecque. On peut l'avoir assez facilement, ça. Il faut tout savoir. Pas au bout de la première année, hein, mais au bout de la troisième année. Il faut avoir aussi une certaine connaissance de tout le développement philosophique. Oui. Nous insistons beaucoup sur l'aspect spéculatif. Je suis limité dans mon temps, hélas. Autrement, je ferai, j'ai toujours ça dans l'idée, de faire comme l'être un ami au niveau de génétique de la pensée, au niveau de l'histoire de la philosophie, pour donner un sens de l'ensemble. Et pour moi, les topiques historiques que nous faisons doivent nous aider à voir cela. Nous faisons de la philosophie par rapport à notre monde d'aujourd'hui. Pas en premier lieu, hein. Nous cherchons la vérité. Et la vérité est au-delà du monde d'aujourd'hui. Elle a quelque chose d'éternel. Mais nous devons ne jamais oublier nos contemporains, nos chers hégéliens, nos chers marxistes, pour comprendre du reste les événements d'aujourd'hui, au point de vue histoire de notre Europe, il faut connaître ce que c'est que le marxisme. Autrement, on dit tout de suite, ah voilà, les prophéties de Fatima se trouvent réalisées. Attention au lendemain. La Russie vient déclarer la guerre à toutes les parties du Caucase ce matin, qui voulait se libérer du marxisme. Il ne faut pas croire du tout que le marxisme est converti. Pas du tout. J'en ai moi la conviction, mais ça m'intéresse de voir que des gens qui réfléchissent et qui connaissent beaucoup mieux que moi le point de vue politique, on me l'avait dit dès le début, que c'était une astuce prodigieuse pour ne pas perdre la face. Vous savez, quand on a le couteau sous la gorge, quelqu'un est allé à Moscou pour Noël et dit c'est affolant. Personne qui va régulièrement. Non, les gens meurent de faim. Quand les gens meurent de faim, il y a la révolution. courir pour libérer le gosse par derrière. Donc on sait maintenant que le régime marxiste a été incapable économiquement. Ils le reconnaissent. Mais l'idéologie de Lénine demeure. Alors on va voir un nouvel habit. La mode a changé. Ça joue beaucoup la mode. Parce que beaucoup de gens ne jugent qu'en fonction de la mode. Un habit nouveau, une redingote nouvelle. Un haut de forme particulier. Ou la casquette. Marxiste va changer. Très important de comprendre ça. Alors, il faut, au point de vue philosophique, rechercher la vérité et en même temps toujours avoir un œil sur ce que représentent les grands moments de la philosophie. Les grands moments de notre culture occidentale. Il faudrait le faire aussi pour l'Inde, pour l'Asie. Il faudrait le faire. On ne peut pas tout faire. Alors c'est pour ça que je comprends bien que la topique historique est fatigante. Parce que pour qu'elle soit extrêmement intéressante, il faudrait qu'elle soit beaucoup plus développée. Présenter chaque grand courant. Je ne peux pas le faire. Parce qu'on n'a pas assez de temps. Mais je le fais ici parce que le problème de la personne, aujourd'hui, c'est le problème numéro 1. Où on risque de faire un œcuménisme très étonnant autour de la personne. Donc, tout le monde part de la personne. Alors, c'est intéressant de voir cette grande montée vers la personne, voir comment le problème de la personne est devenu au cœur de la philosophie. Mais les différentes manières de regarder ce que c'est que la personne. Pour que nous, ensuite, nous essayons de comprendre en face de toutes ces manières de comprendre la personne, comment faut-il comprendre ce qu'est la personne en philosophie de l'être. Alors, si vous perdez pied de temps en temps, ne vous inquiétez pas. C'est pas matière d'examen, la topique. Donc, vous devez écouter avec une liberté. C'est pas matière d'examen. Ah, quel repos! C'est uniquement pour vous rendre plus intelligent. C'est bien plus important. Et puis, vous permettre de mieux comprendre la signification d'une recherche spéculative. Il faut toujours passer entre les deux, vous voyez. Alors, nous étions arrivés à cette question des stoïciens. Comment les stoïciens, de fait, je vous avais dit à propos d'Épicure, je n'y reviens pas, l'aspect subjectif de la personne apparaît de la manière la plus manifeste pour Épicure. La jouissance, la joie. Et au fond, le mot « personne » n'est pas présent. Tandis qu'au contraire, chez les stoïciens, qui sont les mêmes dates, hein, mais c'est chien et chat. Épicure, les épicuriens et les stoïciens. Les deux côtés de la volonté. Volonté, faculté de joie. Volonté, faculté d'efficacité. C'est très curieux. Voyez, l'amitié est une amitié honnête, une amitié délectable, une amitié utile. Eh bien, les épicuriens ne voient que l'amitié délectable. Être un ami d'un épicurien, c'est uniquement lui donner de la joie. Être l'ami d'un stoïcien, c'est lui rappeler le devoir. L'amitié d'un aristotélicien, intéressant à comprendre. Je vous avais dit que c'était l'ami qui nous permettait de dire qu'Aristote avait vraiment découvert la personne. Eh bien, il y a de fait ces trois aspects. L'ami selon Aristote. L'ami selon Épicure. L'ami selon les stoïciens. Selon Aristote, pour Aristote, l'ami, c'est aimer l'autre pour lui-même. Donc, c'est découvrir sa personne. Tant que je n'ai pas découvert la personne de l'autre, je ne peux pas être son ami. Parce que l'absolu, c'est la découverte de la personne. L'ami pour un épicurien, c'est la jouissance. La jouissance est liée à l'amour. Mais une personne qui est uniquement là pour faire jouir. Je ne sais pas comment on l'appelle aujourd'hui. Hein. Il y a des noms pour ça. C'est peut-être un rigolo. Il est là, amuser les gens, tout le temps. On voit très bien, alors ça peut être. Puis alors il peut être aussi autre chose. Et puis l'amitié utile, les stoïciens, l'amitié utile. Un stoïcien sait choisir ses amis en fonction de l'utilité. rationnel et l'irrationnel sont autres pour un autre, comme le mauvais et le bon, l'inutile et l'utile. C'est pourquoi l'éducation apprend à adapter conformément à la nature notre prolepsie du rationnel et de l'irrationnel aux réalités particulières. La prolepsie, c'est le premier acte d'intelligence qui reçoit. C'est l'appréhension, si vous voulez. Car pour déterminer le rationnel et l'irrationnel, nous ne jugeons pas les choses extérieures selon leur valeur, mais encore chacun d'entre nous selon notre personne. Je crois que c'est la première fois qu'il y a le kata to prosopon. Le kata to prosopon. Épictète entretien 1, 2, 1. Selon la personne, selon notre personne. Oui, le propre de la personne, pour Épictète, c'est de discerner le rationnel de l'irrationnel. C'est très très joli. C'est intéressant, du reste. Surtout que c'est la première fois où le mot prosopone est introduit. La première fois chez Épictète, donc chez les stoïciens. Au moment, alors c'est ça qui est intéressant, au moment où saint Paul commençait à écrire ses épîtres. Même un peu, oui, à peu près la même date. Vers 50. L'homme intérieur, l'homme extérieur. C'est tout à fait le même style que les stoïciens. Alors voyez tout de suite, hein, mettez ça en nota bene. Quand on dit qu'il y a un problème de philosophie chrétienne, c'est la personne. Vous voyez qu'il faut mettre tout de suite un petit bémol. C'est les stoïciens qui l'ont introduit. Ce qui est vrai, c'est que la philosophie stoïcienne a été la première être assumé par la foi. Donc, sous l'influence stoïcienne, le problème de la personne a été introduit chez les théologiens. Je dirais donc, le problème de la personne ne nous montre pas un problème original du point de vue chrétien, mais explicite une découverte du stoïcisme. C'est pas la même chose du tout. Par le fait même, si l'on se met une seule fois à comparer la valeur des biens extérieurs en la calculant, on est très proche de ceux qui ont perdu le sens de leur propre personne. Ceci, encore Épictète, c'est encore dans Épictète, dans le manuel. Ah non, c'est Épictète, entretien, pardon. 1, 2, 14. Je relis la phrase. Si l'on se met une seule fois, vous voyez, la logique stoïcienne, hein, c'est toujours si. C'est très... Si. Si il pleut aujourd'hui, demain il fera beau. Et toute la logique stoïcienne, c'est toujours le si hypothétique qui, à partir de là, conduit à la nécessité. La nécessité n'est plus découverte au niveau de l'universel, mais au niveau de la proposition et même du raisonnement. Et ça, c'est le proche de la logique stoïcienne. C'est pour ça que la logique stoïcienne est très proche de ce qu'on appelle aujourd'hui la logique mathématique. Oui.
Et c'est déjà la logique formelle ?
Oui, logique formelle. Oui. C'est toujours, ce n'est plus, à la différence d'Aristote, Pour Aristote, c'est l'universel qui est le lieu de la nécessité. Pour les stoïciens, le lieu de la nécessité, c'est la connexion nécessaire de deux propositions. Et alors, si vous êtes attentif, vous voyez que dans l'évangile, surtout l'évangile de Jean, on retrouve tout le temps cette manière de raisonner. Si vous m'aimez, vous observez mes commandements. Et ça, c'est tout à fait le style stoïcien. Et Jésus parle de ce style parce que la culture commune de ce temps-là, c'était le stoïcisme. Et l'adaptation. Dieu n'est pas stoïcien. Et Jésus n'est pas stoïcien. Mais la culture est stoïcienne. C'est pour ça que les stoïciens, c'est très intéressant. Et c'est facile, hein, c'est très facile à lire. Quand vous êtes fatigué, lisez Épictète. Il y a toujours ça, comme livre de chevet le soir. Une lecture d'Épictète pendant une demi-heure, c'est excellent. C'est merveilleux. C'est facile à compartiment Aristote. Puis c'est beau, c'est une âme noble, Épictète. L'esclave devenu philosophe. Vous voyez ça, Épictète aujourd'hui. Le pauvre sous-prolétaire devenu philosophe. Vous direz, mais je crois qu'on le mettrait recteur de l'Université de Paris. C'est extraordinaire, c'est le meilleur de tous. Il sait ce que c'est que travailler de ses mains. Et puis, il est devenu philosophe. C'est très beau, du reste. Hein. Tandis qu'Aristote était déjà un peu bourgeois. Son père était médecin. Ah, c'est une situation. C'est tout ce temps-là. Alors, philosophie aristocratique. C'est ce qu'on dit, l'éthique d'Aristote. Tandis que l'éthique stoïcienne, c'est l'éthique politique, démocratique. Par le fait même, alors je relis, si l'on se met une seule fois à comparer la valeur des biens extérieurs en la calculant, vous voyez très bien, ça arrive ça, petit calcul qu'on peut faire, hein. Si on se met une seule fois à comparer la valeur des biens extérieurs en la calculant, on est très proche de ceux qui ont perdu le sens de leur propre personne. Espèce de marchand, espèce d'avare, tu compares la valeur des biens extérieurs. Mais ça n'a aucun intérêt. C'est ça que ça veut dire. Ça n'a aucun intérêt. C'est pas digne d'une personne. Calculer la valeur de ces biens extérieurs, de ces petits lopins de terre. Grâce à une vieille tante, j'ai hérité de ce petit lopin de terre. Grâce à un vieil oncle, j'ai hérité d'un autre petit lopin de terre. Et je me mets à calculer la valeur de ces biens extérieurs. Eh bien, quand on fait ça, on est très proche de ceux qui ont perdu le sens de leur propre personne. Dis-moi qui tu fréquentes, et je te dirai qui tu es. Il ne reste plus beaucoup de personnes dans le monde. Ça, c'est la rigueur des stoïciens. C'est Épictète, ça. C'est très beau. Hein. Vous pouvez mettre ça comme exergue. Surtout ceux qui ont fait votre pauvreté. On a fait votre pauvreté pour sauvegarder le sens de la personne. Parce que vous ne pouvez plus calculer les petits lopins de terre qui sont venus de droite et de gauche. C'est terminé. Et donc, à partir de ce moment-là, vous pouvez redécouvrir le sens véritable de la personne. Do idio prosopon. Il semble bien que prosopon, personne, puisse être traduit ici, donc par personne, bien que dans d'autres passages, ce mot désigne proprement le rôle personnel. La fonction personnelle, ça ne me gêne pas. Hein. La personne recouvre tout ça, même pour nous. Cette grande personne, c'est son rôle. personnel, sa fonction. Alors je lis ce texte. Souviens-toi que tu es comme un acteur. C'est à toi de bien tenir le rôle, prosopone, qui t'est confié. Et c'est à un autre de te le choisir. Si tu prends un rôle au-dessus de tes forces, tu le joues mal. Dites ça à certains, quoi. Si tu prends un rôle au-dessus de tes forces, tu le joues mal. Et tu le laisses de côté à celui qui pouvait bien remplir. Très beau. Tu prends la place de celui qui aurait pu. Donc tu commets une injustice et tu te détruis. Et tu ne seras jamais une personne. Parce que tu seras étouffé par le rôle que tu remplis. Vous voyez, c'est intéressant parce que c'est le premier moment où le mot prosopone apparaît. Donc de voir tout ce qui est un petit peu impliqué autour, et de le voir dans la fraîcheur des pique-têtes. Parlant du vrai philosophe qui, dans ses actions, doit offrir un beau modèle aux autres. Et Pictet rappelle l'exemple d'Helvidius Priscus, qui préféra mourir plutôt que de ne pas siéger au Sénat dont il était mort. Un exemple extraordinaire. Il ne faut pas oublier que Sénèque dit, à propos du philosophe, « Nati sunt ut exemplar ». Mais ça rejoint ça. Pour Sénèque, le philosophe, il est né pour donner l'exemple, pour être modèle. Les philosophes, « Nati sunt », ils sont nés. Autre exemple là. Ça, c'est tout à fait le stoïcisme. Le stoïcisme, dans sa morale, met très en lumière le point de vue du modèle. L'exemple là. C'est un des caractères de la morale stoïcienne. Ils aiment les saints, les stoïciens. Ils aiment ceux qui donnent l'exemple, ceux qui portent une bannière, et qui sont devant. Les stoïciens n'aiment pas ceux qui sont par derrière. Oui. Comme certains qui disent, puisque tout mon peuple fait ça, je le suis. Ça, c'est tout à fait contraire aux stoïciens. C'est plutôt proche d'Épicure. Oui. C'est pas du tout stoïcien. Les stoïciens prennent les risques. Il y a quelque chose de beau et de noble. Hein. Et je comprends très bien comment les premiers chrétiens qui ont pensé ont mis un parallélisme entre cette morale d'Épictète, de Sénèque, et puis la morale évangélique. D'abord, on retrouve, il y a quelque chose, on retrouve, si vous voulez, cette sorte de noblesse, de panache. Il y a un certain panache. Nati sont tout exemplaires. Vous voyez, ici, parlant du vrai philosophe, qui dans ses actions doit offrir un beau modèle aux exemplaires, aux autres. Et puis, peut-être rappelle l'exemple d'Helvidius Priscus. Vous l'avez complètement oublié ce qu'il était. Moi aussi. Helvidius Priscus. Ça n'a aucune espèce d'importance. Ce qui m'intéresse, c'est le jugement d'Épictète, qui préféra mourir. Et ça, c'est pas chrétien. Qui préféra mourir plutôt que de ne pas siéger au Sénat dont il était membre. Et l'exemple de l'athlète qui risquant la mort, si on ne le mutilait, choisir la mort. Cet homme, demande-t-on, a-t-il agi en athlète ou en philosophe? Et puis peut-être répond, comme un homme dont le nom a été proclamé à l'Olympie et qui a lutté. Voilà qui est selon la personne. Le kata do prosopone. S'il n'y a pas de panache dans votre vie, si vous n'êtes pas capable de ça, eh bien vous n'êtes pas une personne. Au plan stoïcien. Il y a des choses qui manquent. vois bien. Vous voyez, ce lien, et c'est ça, je crois, qu'il faut retenir. Vous voyez, dans une topique comme ça, essayez d'avoir une feuille à côté de vous. Et vous marquez les qualités de la personne. Chez chacun. Bien ici, vous pouvez dire, dans le stoïcisme, la personne liée à l'exemplaire, au modèle, au panache. La personne, c'est celle qui sait entraîner les autres. Autrement, non. Peut-être pas une personne. Mais comment reconnaître ce qui est selon la personne? Ce n'est pas subitement que l'homme acquiert la noblesse d'âme.